Vous écoutez RTL.
RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, le PSG face à son destin. Après leur victoire 4-0 en 8e de finale aller de Ligue des Champions, les Parisiens vont devoir éviter la vengeance à domicile du FC Barcelone pour se qualifier en quart. Une raison d'espérer. Jamais le Barça n'a réussi une telle remontada. Une raison de douter. Depuis le début de la compétition, les Catalans ont marqué en moyenne 5 buts par match à domicile sans en encaisser un seul. Alors dans RTL Soir, nous serons évidemment au Camp Nou. À 18h20, exclusivité RTL. Première interview radio de la patronne du foot français, Nathalie Bois-de-la-Tour. Elle nous donnera son pronostic. Et puis à 20h, évidemment, le match à vivre en direct sur RTL. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet, bonsoir.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal.
Un sursis pour la petite Marois. Les médecins marseillais voulaient interrompre les traitements qui maintiennent en vie cette petite fille de 15 mois lourdement handicapée. Mais le Conseil d'État donne raison à la famille. Explication dans un instant. L'épilogue dans l'affaire Troadec. Des fragments de corps humain et des bijoux appartenant à la famille disparue ont été découverts lors des fouilles au domicile du beau-frère dans le Finistère. Garde à vue prolongée pour 54 jeunes après des violences hier à Saint-Denis. L'affaire tourne à la polémique politique. François Fillon parle de guérilla urbaine. Marine Le Pen accuse le gouvernement d'inertie. La gauche éparpillée façon puzzle. Bertrand Delanoë soutient Emmanuel Macron. Les ministres hésitent et le PS tangue. À suivre également le casse-tête du remplacement des profs. 13,5 millions de jours d'absence chaque année. La Cour des comptes en appelle aux heures sup. L'Institut Pasteur visé par une enquête préliminaire. Des virus dangereux auraient circulé sans grande précaution. Et puis retour vers le futur au Salon de l'Auto à Genève. Airbus présente une voiture volante et ce n'est pas un film. La Bourse de Paris termine en légère hausse de 0,11% à 4 960 points. Les courses à Amiens, il fallait jouer le 7, le 5, le 8, le 6 et le 3.
À 18h25, les coulisses de l'actualité à l'occasion de la journée de la femme. Savez-vous que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès pour elles? Immersion tout à l'heure avec la spécialiste santé de RTL, Odile Pouget. Elle a passé un check-up complet. 18h30, Alain Duhamel. Ce soir, le petit déjeuner présidentiel ce matin sur RTL de Marine Le Pen. 18h35, une justice au service des puissants, faite d'arrangements et de compromis. Le coup de sang de maître David Koubi, le médiatique avocat de Jérôme Kerviel, publie une contestation française. Rencontre avec un anarchiste boxeur tout à l'heure. 18h50, RTL Monde, spécial 8 mars, à la rencontre d'une femme chasseur, sa cible Boko Haram. Après 19h, on fera le monde, 100% féminin également. Bonsoir Louis Bonin.
Bonsoir Marc-Olivier.
Et demain, ça s'arrange un peu.
Oui, exactement. Côté température, déjà, ça va grimper. Je vais commencer par ça. Alors, ça sera un peu frais le matin dans la moitié sud, parce qu'on aura un ciel dégagé en cours de nuit, entre 3 et 8 degrés, mais pas moins de 10 degrés dans la moitié nord. Et puis l'après-midi, ça continue à grimper par rapport à aujourd'hui. 13 à 16 degrés dans la moitié nord, jusqu'à 15-16 degrés en Ile-de-France ou encore du côté de la Bretagne. Et 16 à 25 degrés dans le sud, vous avez bien entendu, 25 degrés
on
à Perpignan.
Bien, ouais.
Ou encore 23 du côté de Marseille, ça ressemblera un petit peu à un début d'été. Tout ça parce qu'effectivement, dans la moitié sud, on aura un temps sec et ensoleillé toute la journée après quelques brouillards matinaux. Puis dans la moitié nord, certes, il y aura encore des passages nuageux, mais un peu moins de pluie. Donc une impression un tout petit peu plus agréable ou moins désagréable.
À tout à l'heure, Louis.
RTL Soir.
Et c'est donc un match hors norme qui va débuter dans un peu moins de 3 heures maintenant. Barça-PSG, le retour en 8e de finale de la Ligue des Champions.
Un match hors norme car l'aller a été magique avec l'incroyable victoire des Parisiens. 4-0 au Parc des Princes. Les Catalans rêvent de revanche, d'une remontada fantastique. Un 5-0, pourquoi pas. Ils seront portés par un stade du Camp Nou plein à craquer. C'est là que vous vous trouvez pour RTL. Philippe Sanfourche, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, pas si simple pour les Parisiens. Comment est-ce qu'ils abordent la rencontre?
Écoutez, avec appétit et impatience surtout de doucher si possible très vite les espoirs catalans. Dans une petite heure maintenant, ils vont quitter leur hôtel à quelques centaines de mètres au-dessus du Camp Nou. Certains connaissent maintenant parfaitement cette enceinte, Blaise Matuidi, Thiago Silva, mais d'autres vont la découvrir, le Belge Thomas Meunier par exemple, qui va passer ce soir le test ultime du très haut niveau pour un défenseur.
C'est pas gagné d'avance et tout le monde nous a prévenu, même le coach le premier directement après match, il dit les gars pieds sur terre. C'est pas encore fait. Donc voilà, moi je suis certain qu'on fera le travail, mais il faudra rester prudent.
En face, Barcelone va évidemment jouer son va-tout. Au-delà d'une improbable qualification, c'est l'honneur du club qui est en jeu. Le discours se veut solennel chez l'attaquant Luis Suarez.
On est conscient que c'est une situation difficile à inverser, mais ce n'est pas impossible. Il faut dire les choses clairement. S'il y a une équipe capable de réaliser ça, c'est bien le Barça. On est conscient qu'il faut sortir un gros match.
90 000 spectateurs au moins sont attendus ce soir, dont plus de 5 000 supporters parisiens pour vivre, quoi qu'il arrive, un match qui va rester dans l'histoire.
A tout à l'heure, Philippe Sanfourche, coup d'envoi à 20h45, soir Ligue de Champions sur RTL, de 20h à minuit avec Christophe Paco et Bichent Lizarazu. Le Conseil d'État a tranché, il ordonne la poursuite des traitements de la petite Marois, Isabelle.
Ce bébé de 15 mois est hospitalisé depuis près de 6 mois à l'hôpital de la Timone à Marseille. Elle est victime d'un virus foudroyant qui l'a laissée lourdement handicapée, physiquement et mentalement. Les médecins préconisaient un arrêt des soins, mais la famille s'y est opposée et le Conseil d'État vient de lui donner raison. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
Ce n'est pas la première affaire de ce type. Pourquoi, dans ce cas précis, on ne parle pas d'obstination déraisonnable ?
Eh bien, c'est l'état de conscience de la petite Marois qui a été au cœur de la décision. Le juge considère que cet état est fluctuant et montre des évolutions favorables et que l'on ne peut pas dire à ce stade si cela tient du réflexe ou de l'action volontaire du bébé. En clair, pour le Conseil d'État, la petite fille n'est pas maintenue en vie de façon artificielle, ce qui est une condition de la loi Leonetti pour mettre fin à l'arrêt des soins. Satisfaction de l'avocate des parents, maître Samia Maktouf.
C'est un soulagement pour la famille de Marois. Les parents de Marois vont enfin être au chevet de leur fille pour lui donner de l'amour, pour s'en occuper. Marois est consciente, Marois va bénéficier du maintien des soins. Le contraire aurait été un assassinat.
Une décision toutefois provisoire qui s'applique uniquement à la situation actuelle. Si l'état de santé de Marois devait se dégrader, les parents devraient de nouveau saisir les juges. Alors c'est la deuxième fois que le Conseil d'État prend une décision de ce type. La première fois c'était pour Vincent Lambert, plongé dans un coma artificiel depuis 2008. Mais les juges avaient alors pris la décision inverse, celle de l'arrêt des soins. Une décision qui n'a toujours pas été appliquée en raison de l'opposition irrévocable des parents Lambert.
Explication RTL signée Thomas Proutot.
C'est sans doute l'épilogue dans l'affaire Troadec. Les fouilles qui ont débuté ce matin sur la propriété du principal suspect dans le Finistère ont permis de mettre au jour des fragments de corps humain et des bijoux appartenant aux membres de la famille disparue. Les fouilles se poursuivent avec la coopération d'Hubert Kawitsa.
Garde à vue prolongée pour 54 jeunes après des violences près d'un lycée de Saint-Denis hier. Et l'affaire prend maintenant une tournure politique.
Les faits se sont déroulés dans le quartier sensible du Franc-Moisin, aux abords du lycée Suger. Jet de fumigène, établissement évacué. Plusieurs dizaines de jeunes ont alors caillassé des policiers et incendié des poubelles. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'est rendue sur place aujourd'hui et elle a été prise à partie par la maman d'une élève interpellée. Photo Radio RTL, signée Sinamir.
Il y a des parents qui n'ont même pas encore été mis au courant de leur enfant en garde à vue. Vous faites quoi pour eux, madame? Je me démène comme une malade pour mes enfants pour qu'en fin de compte, ils se retrouvent en garde à vue. Vous trouvez ça normal? Vous n'avez rien fait, vous êtes venus pour regarder, c'est des caméras. Normalement, une école doit être sécurisée, on ne doit pas faire sortir les élèves. C'est des mineurs, je suis désolée. Non, c'est n'importe quoi.
Pour la première fois dans l'histoire de ce lycée, les caillassages et les bagarres ont eu lieu à l'intérieur du lycée. La
police, ils passent leur bac, madame.
On a fait voter 50 000 euros.
Je vote. Je suis citoyenne française, d'accord? Je suis originaire d'Algérie, mais je vote comme tout le monde. S'il vous plaît, faites quoi pour nos enfants? Vous faites quoi?
On va s'occuper.
Mais faites rien, ils sont à l'abandon, on les jette comme de la merde en dehors du lycée.
Madame,
ma fille n'est pas en sécurité ici, c'est pas normal. Je pleure et je crie parce que c'est une révolte que je fais. Vous comprenez, ça fait plus de 24 heures qu'elle est là-bas. 24 heures, elle est première de la classe. Je me bats pour elle, je travaille comme une chienne. J'ai des heures supplémentaires pour qu'elle soit bonne à l'école, pour qu'elle résiste dans sa vie.
Incroyable photo radio signée Sinamir.
La ministre de l'Éducation a évoqué des actes gravissimes qu'il faudra sanctionner fermement. Réaction minimale, a commenté Marine Le Pen. François Fillon lui parle de guérilla urbaine. Il réclame des sanctions pour les parents, notamment la suspension des aides sociales. Cet après-midi, Bernard Cazeneuve a accusé le FN d'exploiter les incidents à des fins électorales.
On ouvre maintenant la page politique, Isabelle, avec une gauche plus que jamais éparpillé, écartelé.
RTL,
le journal de la présidentielle.
Car ce matin, un poids lourd du PS, Bertrand Delanoë, a annoncé son soutien à Emmanuel Macron.
L'ancien maire de Paris explique qu'il ne se retrouve pas dans le projet de Benoît Hamon. Il le juge même dangereux. Ce ralliement est peut-être le premier d'une longue série. Sauf que pour les membres du gouvernement, eh bien, ce n'est pas si simple. On l'a bien vu ce matin en Conseil des ministres, Vincent de Rosier.
Oui, François Hollande craint l'appel d'air. Il a donc lancé un avertissement à son gouvernement. Le rôle d'un ministre n'est pas de faire campagne, c'est de servir les Français. Voilà pour le recadrage. Dans le viseur du chef de l'État, tous ceux qui s'interrogent plus ou moins discrètement sur un éventuel ralliement à Emmanuel Macron, notamment Jean-Yves Le Drian ou Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement mal à l'aise quand on l'interroge sur sa décision à lui.
Ah mais moi je ne sais rien, vous savez. C'est pas aujourd'hui et ça sera pas ici et ça sera pas maintenant, voilà.
Vous parlez du 15 mai ?
Non. J'ai dit c'est autour, oui. Si je compte bien le deuxième tour. Non mais c'est le deuxième tour, c'est quand ? Alors on va essayer de 7 mai.
7 mai, 15 mai, début avril, fin mars, on ne sait plus. D'après un socialiste, Jean-Yves Le Drian, Stéphane Le Foll ou François Rebsamen, le maire de Dijon, les Hollandais pur jus donc voudraient annoncer leur décision en même temps. Quand et comment François Hollande aujourd'hui leur complique la tâche.
Alors il y a donc de l'embarras au gouvernement et une pression maximum sur le PS, Vincent.
Oui, parce que Bertrand Delanoë qui critique la campagne dangereuse de Benoît Hamon, c'est aussi une attaque contre la rue de Solferino. Et ça ne facilite pas la tâche de Jean-Christophe Cambadélis et ses sanctions qu'il promet depuis des semaines contre les socialistes tentés par l'aventure En Marche. Au siège du PS, on ironise sur le feuilleton des ralliements. Ils en sortent un tous les jours, mais au final, ils se comptent sur les doigts d'une main, dit un proche du patron du PS. Pour d'autres, Bertrand Delanoë est simplement en train de régler ses comptes avec Cambadélis, Hamon et Aubry. La brouille remonte au congrès de Reims en 2008. Ça fait 9 ans, oui. Mais vous savez ce qu'on dit sur la vengeance.
Vincent Derosier du service politique de RTL.
Emmanuel Macron qui est mis en cause par le canard enchaîné dans une affaire de délit de favoritisme. Lorsqu'il était à Bercy en janvier 2016, il avait participé à une soirée à Las Vegas dont l'organisation a été confiée à Havas sans appel d'offres. Le parquet national financier attend pour l'instant des informations et le parti En Marche veut porter plainte contre Christian Jacob pour diffamation.
RTL soir 18h11.
Et dans un instant, trop de profs absents et bientôt des solutions.
18h12 RTL sort avec Marc-Olivier Fogiel et pour la suite du journal Isabelle Choquet.
Et c'est un chiffre qui laisse sans voix. Chaque année, les enseignants cumulent plus de 13,5 millions de journées d'absence.
Et quand un prof est absent, il faut le remplacer. En 2015, cela mobilisait plus de 65 000 titulaires et 30 000 contractuels. C'est beaucoup, c'est trop pour une efficacité pas toujours évidente. La Cour des comptes tape du poing sur la table. Le ministère de l'Éducation est prié de prendre des mesures, Armelle Lévy.
Oui, comme déjà faire en sorte de remplacer les professeurs absents un jour, deux jours, trois jours dans les collèges et lycées par un de leurs collègues qui enseigne la même matière dans le même établissement. C'est possible depuis 11 ans, depuis le décret Robien, mais il n'est pas appliqué face au refus des enseignants. Résultat, aujourd'hui, seulement 5 à 20% des absences de courte durée sont remplacées. Pour contourner ce blocage, la Cour des comptes a une autre idée. Pourquoi ne pas imposer la mission de remplacement dans l'obligation de service des enseignants des collèges et lycées ? Ils seraient obligés de le faire à la demande du chef d'établissement. Alors là, interrogé par RTL, les syndicats enseignants sont vent debout. Ils ne veulent pas que le remplacement leur soit imposé, même payé en heures supplémentaires. Ils disent qu'ils ne veulent pas faire de la garderie, eux, c'est de la pédagogie, des cours préparés. Le ministère, pris en tenaille entre la demande forte des parents d'élèves qui rejoint celle de la Cour des comptes et les syndicats enseignants, est en train d'œuvrer en coulisses pour tenter de réactiver ce vieux décret qui permettrait, sur la base du volontariat, d'améliorer la gestion des absences entre collègues.
Merci beaucoup, Armelle Lévy.
Travailler autant pour gagner moins, c'était l'un des slogans entendus cet après-midi, Place de la République, pour la journée des droits des femmes. Elles étaient plusieurs centaines à manifester pour réclamer, entre autres, l'égalité salariale.
Et on en vient à ce début de scandale qui touche l'un des fleurons de la recherche français, l'Institut Pasteur.
L'organisme est visé par une enquête préliminaire depuis fin 2016. En cause une série de manquements et d'anomalies en termes de sécurité sanitaire. Concrètement, on parle d'un virus extrêmement dangereux qui a circulé dans des conditions, disons, rocambolesques. Bonsoir, Raphaël.
Bonsoir. Vantard.
La direction, pour l'instant, minimise.
Aucun risque n'a été pris. Voilà le discours ce soir du prestigieux Institut Pasteur. Les échantillons de mer coronavirus rapportés de Corée du Sud par une chercheuse en 2015 ne présentaient pas de danger sanitaire. Il s'agissait de micro-prélèvements neutralisés qui voyageaient sans que la direction générale soit au courant. Mais dans tous les cas, selon les chercheurs, ces échantillons ne présentaient pas de risque, même en étant manipulés, de provoquer une épidémie. Tout juste, l'Institut Pasteur reconnaît une erreur de procédure, celle de n'avoir pas déclaré aux autorités sanitaires la destruction de ces échantillons. Christian Bréchaud, le directeur général de l'Institut Pasteur.
Il n'y a jamais eu transport d'échantillons contagieux. D'autre part, la destruction immédiate de ces échantillons demandée par la direction générale n'a jamais été due à une volonté de cacher quoi que ce soit. Par contre, ce qu'on reconnaît effectivement, c'est que la déclaration à l'ANSM qui aurait dû être faite n'a pas été faite et que l'Institut Pasteur aurait dû effectivement revenir là-dessus. Ça, on le reconnaît. Mais il n'y a jamais eu de menace sanitaire.
Malgré ces explications, les autorités sanitaires ont bien transmis leur rapport d'enquête. Il y a quelques semaines au parquet, une enquête reste donc ouverte par la justice et l'Institut Pasteur risque donc à terme une condamnation.
Merci beaucoup, Raphaël Vantara. Tout à l'heure, Isabelle, vous revenez à 18h30.